Une seule lecture ce matin comme support à notre méditation, une lecture qui se trouve dans la seconde lettre de l'apôtre Paul à Timothée, son disciple. Au chapitre 2, nous lisons les versets 1 à 8. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles, qui soit capable de l'enseigner aussi à d'autres. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Alors comprends ce que je dis. Car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité des morts, selon mon évangile. Seigneur, ta parole est source de vérité, sanctifie-nous par la vérité. Mes amis, nous sommes là ce matin. Nous sommes réunis pour nous souvenir de ceux qui ont risqué leur vie, de ceux qui l'ont abîmée, de ceux aussi et surtout qui l'ont donnée, pour que ceux qui sont restés en arrière, derrière eux, puissent vivre dans la paix et la liberté. Paix et liberté plutôt durable, parce que nous en bénéficions encore en 2022, en tout cas chez nous. Mais pourtant, que nous discernons si fragile aujourd'hui. Tous, nous discernons cette paix bien fragile. Et je n'ai pas vraiment d'idée, je me suis demandé si il en devait vraiment en être ainsi, c'est-à-dire qu'il y ait des gens qui doivent combattre de leur côté sur des fronts militaires, à donner leur vie, etc. Et de l'autre, ceux qui vivent paisiblement du fruit de ces combats. Je ne suis pas venu vraiment à une conclusion en ce qui concerne notre monde, mais en ce qui concerne l'Église en tout cas, il est bien souvent question, et on le voit dans les épîtres surtout, que la foi est souvent présentée comme un combat. L'apôtre Paul le présente en tout cas comme un véritable combat. Un combat personnel et un combat qui nous réunit tous. C'est ce que je vais effleurer avec vous ce matin dans notre réflexion, en reprenant juste quelques versets de notre passage du jour. Dans cette deuxième épître de Timothée, donc au chapitre 2 que nous avons lu, je reprends avec le premier verset. « Toi donc, mon enfant, puise tes forces dans la grâce qui nous est accordée dans l'union avec Jésus-Christ. » Dans ce chapitre, l'apôtre Paul commence son exhortation à Timothée en l'appelant « mon enfant ». Alors, ce n'est pas son fils, en tout cas pas son fils dans la chair. On peut estimer que c'est son fils spirituel. Il s'était converti suite à la première visite missionnaire de Paul dans sa ville, à Lystre, et à l'occasion du deuxième voyage de Paul, l'apôtre a pris Timothée avec lui et il en a fait son disciple. Et c'est pourquoi Paul s'adresse à Timothée de manière très affectueuse, un peu comme un père s'adresserait à son fils. Et là, l'expression de cet amour n'est pas de trop, parce qu'il semble que Timothée soit enlisé dans des difficultés dont il n'arrive pas à se sortir. Alors l'apôtre est tendre, mais ferme, il ordonne et dit littéralement « Sois fort par le moyen de la grâce qui est en Jésus-Christ. Puise ta force dans la grâce. » Qu'est-ce que ça veut dire ? Mais répondre, ce serait peut-être faire allusion ou référence à un autre faire mémoire, celui de Martin Luther au XVIe siècle, qui rappelle à l'Église que tout ce que nous pouvons faire pour nous rapprocher de Dieu ou pour gagner ses faveurs ou son salut n'a absolument aucun effet. Il est voué à l'échec. Tout effort dans ce sens est voué à l'échec. On ne peut pas plaire à Dieu parce qu'on fait du bien ou parce qu'on fait beaucoup de bonnes œuvres. Non, lui, il rappelle, déjà Paul le faisait, et Luther après lui, que nous sommes sauvés par grâce. Peu importe que nous le méritions ou pas, il y a des gens très bien qui pourraient mériter d'être accompagnés par Dieu, d'être sauvés par Dieu, mais aucun de nous, en fait, n'est à la hauteur. C'est pourquoi il dit « Nous sommes tous sauvés par grâce, tous nous sommes aimés tels que nous sommes, alors, parce que nous sommes sauvés et aimés tels que nous sommes, nous pouvons servir totalement, gratuitement, sans arrière-pensée, de manière complètement dégagée, pas en se disant, voilà, pour gagner quelque paradis ou pour fuir quelque enfer, mais par simple reconnaissance d'être aimé et sauvé gratuitement. » Paul poursuit, « Et l'enseignement que tu as reçu de moi et que de nombreux témoins ont confirmé, transmets-le à des personnes dignes de confiance qui seront capables à leur tour d'en instruire d'autres. » Alors Paul mentionne ici quatre générations qui se sont transmises la parole, mais on sent bien qu'en réalité ce processus exprime ce processus continuel depuis Jésus jusqu'à nos jours. Certains ont parlé, ont transmis, ont témoigné, et cette parole est venue jusqu'à nous aujourd'hui, en 2022, après Jésus. Son souci est que l'œuvre de Dieu se poursuive, coûte que coûte. Vous savez, son état d'esprit, c'est un peu celui qu'on trouve dans le chant des maquisards, le chant des partisans. Il y a une ligne qui dit « Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. » Vous voyez ça? C'est exactement le processus qui est dans l'esprit de Paul à ce moment-là. Il sait qu'un chrétien doit s'arrêter, un autre doit reprendre derrière. Et il s'inquiète de ça. L'intention, le désir de Dieu, c'est que ses enfants le fassent connaître et fassent connaître sa parole autour d'eux. Et il confie à chaque être humain un travail spirituel. Un travail, une mission qui doit être accomplie avec comme point de départ, on l'a entendu, la grâce. Parce que si je suis le point de départ de mon action, si je suis la source d'inspiration et la seule source d'inspiration de mon action, si je place uniquement ma confiance dans mes capacités, je serai souvent déçu de moi et découragé. Alors Paul veut plutôt, au contraire, que Timothée et que tous les croyants derrière lui se laissent inspiré par Dieu, dépendent de lui et s'attendent à trouver une direction dans leur vie au travers de sa parole. Ici, l'idée, c'est de toujours travailler sur moi et dans le monde avec l'Esprit de Dieu. Je continue le texte. « Tel un bon soldat de Jésus-Christ, prends comme moi ta part de souffrance. Celui qui s'engage dans une expédition militaire ne s'embarrasse pas des affaires de la vie civile, afin de donner pleine satisfaction à l'officier qui l'a enrôlé. » Paul nous dit que la vie chrétienne est une guerre qui se mène sur deux fronts à la fois. À l'extérieur, contre tout ce qui, dans le monde, le rend plus obscur, ce que le théologien Paul Tillich appelle le non-être, tout ce qui abîme d'une manière ou d'une autre notre monde, et un front intérieur, contre tout ce qui, en nous, nous tire vers le bas, nous empêche d'avancer, nous ralentit, nous empêche de devenir pleinement ce que nous sommes appelés à devenir. Un combat contre ce que la Bible appelle le péché. Et on le sent bien en nous, tout ce qui nous empêche d'avancer, d'être, de devenir, de nous accomplir, nous sommes empêchés. Un double front, donc. Et dès que quelqu'un place sa confiance en Jésus, il est automatiquement enrôlé dans cette armée et il est un soldat sur ces deux fronts. Et ce combat, c'est un combat de toute une vie. Celui qui est engagé dans une lutte armée ne commence pas à se battre à 9h du matin après le petit déjeuner pour finir à 17h et rentrer chez lui. On voit mal un soldat en campagne aller voir son supérieur, son sergent, et puis aller lui dire « Écoutez, ça commence à bien faire, j'ai d'autres obligations, je dois vous quitter, continuez la bataille sans moi, bon courage. » On s'imagine bien que ça se passerait très mal pour ce soldat. Un soldat, il doit être sur le pont 24 heures sur 24, il appartient corps et âme à son unité de combat. De plus, il doit être prêt à risquer et à perdre sa vie à tout moment. Alors, comme il est totalement immergé dans la vie militaire, il ne s'embarrasse pas des affaires de la vie civile dans ce moment-là. Il n'est plus sur le même plan. Alors, on pourrait lire ces mots un peu comme une parabole où Jésus serait l'officier qui a enrôlé le croyant dans son armée et ce dernier doit une loyauté absolue à son supérieur. Alors, avis aux petites natures, la vie chrétienne n'est pas un terrain de jeu pour les croyants, mais c'est aussi et surtout un champ de bataille. Un peu plus loin, Paul, qui sait que sa vie arrive bientôt à son terme, écrit à son disciple « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. » Et justement, après l'image du combat pour une victoire collective, Paul prend maintenant, au verset 5, une autre parabole pour évoquer une victoire peut-être plus personnelle. Il écrit à Timothée « On n'a jamais vu un athlète remporter le prix sans avoir respecté toutes les règles. » Alors Paul a d'abord comparé la vie chrétienne à un combat qui doit trouver sa source et sa motivation dans la grâce de Dieu, en amont de lui. Maintenant, l'analogie est vers une compétition sportive qui vise un but, qui vise un prix, une récompense. Paul utilise d'ailleurs plusieurs fois ce genre de métaphore dans ses écrits, il revient souvent là-dessus. Ici, il dit littéralement « L'athlète n'est pas couronné s'il n'a combattu comme un athlète en suivant les règles. » Alors on voit que l'obtention d'une couronne est soumise à deux conditions. Premièrement, l'athlète doit se battre et lutter avec acharnement. C'est ce que signifie le verbe qu'on a traduit par « combattre comme un athlète ». Peut-être il faudrait le comparer à « combattre comme une fillette »,« combattre comme une mauviette ». Lui dit non, il faut combattre comme un athlète. Et ça veut dire quelque chose, c'est-à-dire que celui qui participe à une compétition et qui veut vraiment remporter le prix, doit donner tout ce qu'il a dans les tripes pour y arriver. C'est pas juste comme ça un petit peu participer. L'écart, vous savez, entre la première place et la seconde place, dans une course quelle qu'elle soit, surtout quand elle n'est que de quelques centièmes de seconde, comme ça, ça ne signifie pas que le vainqueur était plus fort, qu'il était meilleur, qu'il était mieux entraîné ou qu'il était plus doué, mais plutôt qu'il avait une détermination, une volonté de gagner, peut-être un peu supérieure à celui qui est arrivé second. Voilà, ils sont probablement très équivalents au niveau physique, mental et tout ça, mais il y a quelque chose d'un petit peu plus, c'est qu'il voulait gagner. On découvre au fil des lectures de ces lettres que Paul voulait absolument triompher dans sa vie chrétienne. Ailleurs, un peu plus jeune, il écrit « Je poursuis ma course vers le but pour remporter le prix ». J'aime bien l'idée, parce que là aussi, il y a une volonté de récompense, de satisfaction pour soi-même. L'être humain n'est pas nié, au contraire, on ne doit pas se battre que pour le collectif. On a aussi quelque chose, un prix à remporter pour soi. Il ne s'agit pas tant là d'être meilleur que l'autre, mais d'être meilleur que soi-même, d'être meilleur que ce que j'étais hier, et de se battre comme ça. On n'est là pas pour gagner par rapport à mon prochain, à mon voisin, mais c'est gagner pour moi-même, gagner sur moi-même, devenir un meilleur moi-même qu'hier. C'est tout ça l'idée. D'ailleurs, c'est l'idée du djihad, dans l'islam, c'est exactement ça, c'est un combat contre soi-même. Et deuxièmement, celui qui remporte le prix doit respecter les règles du jeu. En effet, vouloir gagner une compétition et en avoir la capacité physique et mentale, c'est une chose et c'est très bien, mais ça ne suffit pas, il faut aussi obéir aux règles qui sont particulières à ce sport. Par exemple, le coureur qui ne suit pas le circuit balisé, il sera automatiquement disqualifié. Alors vous savez peut-être qu'au 1er siècle, pour participer aux Jeux Olympiques, tous les athlètes devaient remplir trois conditions. La première, c'est qu'ils devaient être grecs de naissance. Ils devaient s'être entraînés pendant au moins 10 mois avant le jour de la compétition et ils devaient jurer qu'ils l'avaient fait devant une statue de Zeus. Et enfin, obéir strictement aux règles en vigueur. Pareillement, le chercheur de Dieu devrait, s'il veut avancer dans sa vie spirituelle, accepter une discipline stricte dans les grands domaines de sa vie, contrôler un peu plus son affectivité et ordonner ses priorités en fonction des éclairages qu'il a sur les Écritures. Tel un soldat, un véritable disciple est forcément discipliné. Vous l'entendez, disciple, discipliné, c'est un peu le même mot, on est dans quasi un synonyme là. Ailleurs, Paul écrit « Ne savez-vous pas que sur un stade, tous les concurrents courent pour gagner ?» Et cependant, un seul remporte le prix. Courez comme lui, de manière à gagner. Tous les athlètes s'imposent une discipline sévère dans tous les domaines pour recevoir une couronne, qui pourtant sera bien vite fanée, alors que nous, nous aspirons à une couronne qui ne se flétrira jamais. Alors, du temps de Paul, ceux qui participaient aux Jeux Olympiques et qui remportent l'épreuve recevaient une couronne de laurier. Alors que, voilà, de nos jours, c'est plutôt une coupe ou une médaille, mais de toute façon, ces symboles, ces récompenses sont bien éphémères. Les humains qui sont engagés dans la course de la vie de foi ont tous la possibilité de remporter le prix et d'obtenir la couronne incorruptible, et cette couronne, elle est faite de deux brins, la liberté et la paix. Et enfin, dans notre passage, Paul dit à son disciple, comme à nous, à travers lui, « Réfléchis bien à ce que je te dis, et le Seigneur te donnera de comprendre toutes ces choses. » Alors, pour nous aider à réfléchir de notre côté à ce que Paul dit à Timothée, gardons en mémoire nos soldats, ceux qui nous réunissent aujourd'hui, ceux qui mettent leur vie à risque pour défendre et protéger les nôtres, mais qui que nous soyons, n'oublions jamais non plus que nous sommes nous aussi à combattre avec nos moyens, là où nous sommes placés, là où nous vivons, là où nous travaillons, là où nous évoluons, à travailler dans l'Esprit de Dieu pour toujours plus de compassion, de justice et de paix dans le monde, à commencer par notre monde. Et c'est toujours là qu'il commence. Nous avons donc 1000 batailles à mener, en nous, pour anéantir tout ce qui nous retient, tout ce qui nous empêche de devenir toujours meilleur et de rendre le monde meilleur. Beaucoup de combats, pas tant contre les autres que pour les autres et avec les autres. Comme on l'a dit, la vie chrétienne n'est pas un terrain de jeu, mais un champ de bataille. Qu'on se le dise. Amen.